Dans la vie, nous traversons tous des circonstances difficiles, et dans ces moments-là, on ne peut généralement pas faire grand-chose sinon prendre son mal en patience. C'est vrai pour tout le monde, pour les non-croyants et pour les fidèles du Seigneur. Cependant, ces derniers ont un gros atout dans leur jeu, car ils bénéficient du soutien de Dieu. Je continue à lire dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Verset 12. Jean a déjà exhorté les croyants à la persévérance de la même manière quand il a dit « C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. » Littéralement, le texte dit « C'est ici la patience à endurer des saints ou encore « la persévérance des saints ». Cette doctrine chrétienne affirme que ceux que Dieu a élus, appelés et déclarés justes, il les conduira aussi à la gloire. En d'autres mots, ils ne peuvent pas se perdre en route et atteindront le royaume des cieux. Comme la foi authentique est d'essence divine, elle ne peut être ni détruite ni perdue, et les croyants qui meurent à cause de leur fidélité au Seigneur ne perdent rien, mais obtiennent la couronne du vainqueur. Les véritables croyants persévéreront dans la foi jusqu'au bout parce que c'est Dieu qui les préserve et les soutient. En effet, du début à la fin, le salut s'obtient uniquement par la grâce de Dieu. Le croyant ne peut rien faire, ni pour le mériter, ni pour le conserver. Dans sa bénédiction, à la fin de l'une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis l'apôtre ajoute « Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » D'un côté, Dieu garde les siens, mais de l'autre, ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Ces deux vérités fonctionnent ensemble comme des droites parallèles, et il y a plusieurs passages où elles apparaissent côte à côte. Les croyants de la tribulation subiront la pire des persécutions que le monde ait jamais connue, et ils seront abandonnés de tous, car rares seront les personnes parmi les non-croyants qui oseront les aider. Quand Jésus a parlé de la tribulation, il a dit « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Les croyants ne pourront guère compter sur le soutien de leur famille ou de leurs anciens amis, car ces derniers craindront les représailles de la part de la bête. Au mieux, ces derniers fermeront les yeux sur leur présence et au pire, ils les dénonceront aux autorités. L'humanité sera dans une telle détresse que Jésus a dit « Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait, mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. » Pendant ces jours sombres, les croyants auront très peu de marge de manœuvre. Leur préoccupation principale sera de survivre tant bien que mal, en se cachant et en essayant d'échapper aux battues organisées par les hommes de main de la bête. Ils seront poursuivis jour et nuit comme les Juifs par la Gestapo pendant la dernière guerre mondiale. Ils auront constamment l'épée de Damoclès pendue au-dessus de leur tête et pourtant, ils devront faire preuve d'endurance parce que, comme Jésus l'a dit, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ce dernier mot a deux significations, comme en français d'ailleurs. On peut être sauvé de la condamnation éternelle ou bien sauvé de la noyade, par exemple. Il s'agit donc d'un salut qui est soit spirituel, soit physique. Jésus avait probablement ces deux sens à l'esprit. Les croyants authentiques seront d'une part délivrés de leurs ennemis et d'autre part fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. Il faut également dire en passant que le sort réservé à ceux qui adorent la bête est une bonne motivation à persévérer dans la foi. En résumé donc, Les véritables croyants bénéficient du soutien de Dieu, mais ils sont aussi appelés à faire preuve d'endurance et de persévérance. Cependant, ce n'est pas leur seul devoir, car en attendant le retour de leur Seigneur et Sauveur, qui les tirera définitivement des griffes de la bête, j'en dis qu'ils obéissent aux commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus. Ils mènent une vie d'obéissance à Dieu, ce qui est la conséquence normale de la foi authentique. Jésus a déclaré aux Juifs qui croyaient en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Et à ceux qui le suivaient, Jésus a dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Et dans sa première épître, Jean déclare qu'aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Je continue le texte. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écrit, « Heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. » Verset 13. C'est la sixième fois dans l'Apocalypse que j'en dis entendre une voix, et elle se manifestera encore trois autres fois. Ici, c'est probablement Dieu qui s'adresse à Jean et lui ordonne pour la dixième fois d'écrire ce qu'il entend. C'est ici la deuxième béatitude sur les sept que contient l'Apocalypse. La première que nous avons rencontrée au tout début du livre est « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Il faut remarquer que cette deuxième béatitude n'est pas « Heureux les vivants », mais « Heureux ceux qui meurent unis au Seigneur ». C'est une bénédiction pour les morts, mais seulement pour une catégorie bien précise, ceux qui meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ pendant la tribulation. Ce passage ne convient absolument pas à une homélie pour des funérailles, car ce serait tordre le sens des Écritures. Ces morts sont qualifiés de « bienheureux » à cause de leurs circonstances, mais d'une manière générale, il n'est pas normal de vouloir mourir. D'ailleurs, Dieu m'a doté d'un instinct de survie grâce auquel, si je me trouve face à face avec un grizzly, je ferai tout ce que je pourrais pour rester en vie. Cependant, je reconnais que pour celui qui vit dans d'atroces souffrances, la situation est différente, et je me garderai bien de critiquer quelqu'un qui, étant dans une profonde détresse, choisit de prendre sa propre vie. Ce n'est pas à moi de le juger. Cela dit, mourir pour un croyant authentique ne présente que des avantages, mais il ne doit pas aspirer à la mort. Un jour à l'école du dimanche, le moniteur a demandé à un petit groupe de préadolescents « Qui parmi vous veut aller au paradis ?» Tous levèrent le doigt comme un seul homme, sauf Albert. Alors bien sûr, le moniteur l'a regardé et lui a dit « Alors Albert, tu ne veux pas aller au ciel ?»« Bien sûr que si, » a-t-il répondu, « mais je pensais que vous prépariez une charrette pour aujourd'hui. » Plus sérieusement, l'apôtre Paul écrit « Je suis tiraillé de deux côtés, j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. » Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Les morts, bienheureux, comprennent tous les martyrs de tous les temps, mais ici sont plus spécialement déclarés heureux ou bienheureux ceux qui, pendant la tribulation, ont perdu la vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Jean en a déjà vu deux groupes. Il a écrit que quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ensuite Jean a dit, après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leurs tuniques dans le sang de l'agneau. Tous ces martyrs sont heureux pour deux raisons. Ils sont croyants et ils ont persévéré jusqu'au bout, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Et le psalmiste écrit « Qu'elle est précieuse aux yeux de l'Éternel la vie de ses fidèles ». Une foi personnelle en Jésus-Christ est une bénédiction qui dépasse de beaucoup le fardeau des difficultés présentes, y compris la mort en martyr. Je continue le texte. Heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres qui les suivent. Verset 13. Ce passage mentionne le Saint-Esprit qui n'apparaît qu'une autre fois à la fin du livre. En grec, ce « oui » que dit l'Esprit est franc et massif, particulièrement énergique, car il est renforcé par une particule qui joue un peu le rôle du point qu'on tape sur la table. Le Saint-Esprit est le consolateur qui assiste et accompagne les croyants dans toutes leurs difficultés, surtout quand on tire à boulet rouge sur eux à cause de leur foi. On sait déjà que les croyants doivent persévérer dans leur foi jusqu'à la mort, si besoin est, pour motif de conscience, c'est-à-dire par devoir et parce que nous devrons rendre des comptes. Mais ici, le Saint-Esprit donne deux autres raisons pour lesquelles les martyrs sont bienheureux. La perspective de la récompense et du repos que Dieu promet à ses fidèles. Ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise. Le mot pour peine exprime un labeur éreintant et pénible, comme par exemple le travail du plâtrier d'antan qui tire un plafond à la taloche, ou le mineur qui extrait le charbon au pic et à la pioche. Ce mot pour peine signifie aussi de graves contrariétés, et ce sera bien la situation des croyants pendant la tribulation, quand ils seront chassés comme du vulgaire gibier, ou qu'ils verront leurs amis et membres de leur famille persécutés et mis à mort. Comme ils ne porteront pas le nombre de la bête, il leur sera impossible d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Ils vivront en nomades, toujours sur le qui-vive, et prêts à fuir. En pareille circonstance, la mort sera bienvenue car elle les soulagera de toutes leurs souffrances et ils pourront alors goûter le repos céleste, ce qui contraste avec ceux qui ont reçu la marque de l'Antichrist, car ils ne connaîtront pas un seul instant de répit de toute l'éternité. En second lieu, le Saint-Esprit déclare que les martyrs en général, et ceux de la tribulation en particulier, sont heureux parce qu'ils seront récompensés pour leurs œuvres qui les suivent. Bien que nul ne soit sauvé par ces actes, ceux-ci sont importants parce qu'ils déterminent le statut des rachetés dans les cieux pour l'éternité. En effet, tout le monde ne sera pas sur le même pied d'égalité, car certains jouiront de plus grands privilèges que d'autres et seront d'un rang hiérarchique supérieur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. C'est le moment de faire une petite digression pour rappeler que les choix que je fais dans cette vie ont une portée infinie car ils déterminent ce que sera ma destinée éternelle. Tant que je vis, je peux encore changer mon sort dans l'au-delà. Mais une fois que j'aurai franchi les portes de la mort, les dés seront jetés à tout jamais et d'une manière irrévocable. Nous arrivons maintenant à l'exécution du jugement de la septième trompette, à laquelle correspondent les coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur terre. Cela fait maintenant plus de 6 ans que le monde dans son ensemble subit d'une part, d'une manière ou d'une autre, le règne despotique de la bête, et d'autre part, les châtiments dévastateurs de Dieu. Tout le monde est affecté par ces jugements, et on peut être sûr qu'avec plusieurs milliards de morts, il n'y a guère de famille qui n'ont pas enterré un ou plusieurs de leurs membres. Tous ceux qui sont encore debout espèrent que le pire est derrière eux et que la vie va enfin reprendre son cours normal. Mais ce n'est pas le cas, car de nouveaux cataclysmes sont en préparation dans les coulisses célestes. Ces jugements sont décrits à la fois comme une gigantesque moisson et une vendange avec le raisin écrasé dans un pressoir. Ces deux métaphores correspondent aux deux types de jugements encore à venir. Celui des coupes, qui va détruire Babylone, c'est-à-dire l'empire de l'Antichrist, et deuxièmement, la campagne d'Armageddon. En ce qui concerne le sang répandu par cette dernière grande bataille, ce sera bien pire que tout ce qu'on peut voir dans le film d'horreur le plus sanguinaire jamais réalisé, puisqu'il est dit que le sang qui sortit du pressoir était si abondant qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades, soit 290 kilomètres. Je continue le texte. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, verset 14. Comme c'est généralement le cas dans le livre de l'Apocalypse, l'expression « alors je vis » marque une transition et ouvre une nouvelle fenêtre sur la vision de Jean. L'apôtre décrit ici à grands traits un spectacle très similaire à ce que le prophète Daniel a vu. Je le cite. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Fin de citation. Jésus s'est appuyé sur la révélation donnée à Daniel quand il a parlé de son retour sur terre et a dit « C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Quant à nous, au tout début du livre de l'Apocalypse, nous avons déjà rencontré ce Fils d'homme quand Jean a dit « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. C'est dans le chapitre 14 de l'Apocalypse que Jésus est mentionné pour la dernière fois en tant que « fils d'homme », car à partir d'ici, il sera le Seigneur Tout-Puissant. D'ailleurs, la nuée blanche qui l'entoure et le porte symbolise sa gloire et sa majesté. On va le voir prêt à supprimer les usurpateurs, Satan le dragon et l'Antichrist la bête, et à établir son règne sur terre. Je continue le texte. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Verset 14. Ce moissonneur porte sur sa tête une couronne d'or. C'est celle de la victoire qui récompensait le général qui avait gagné la guerre ou l'athlète qui avait remporté une épreuve sportive. Cette couronne que porte Jésus signifie donc qu'il a triomphé de tous ses ennemis, en l'occurrence du dragon, des bêtes et des impies qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Le moissonneur tient à la main une faucille bien tranchante. C'est une longue lame d'acier courbée, affinée comme une lame de rasoir et attachée à un manche de bois. Dans l'Antiquité, on s'en servait pour couper le blé au niveau du sol, et elle est encore très utilisée dans certains pays du tiers-monde. Cette image sert évidemment à décrire le Seigneur qui détruit ses ennemis, car tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ seront fauchés comme les blés.